improvisation is just something natural you do.
Improbox.
Improbox.
Improvising is living.
Le B.A.B.A. d'Ibé. Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz.
Bonsoir tout le monde, nous sommes le mercredi 17 mars, il est 19h06 à Paris, nous sommes en direct et vous écoutez Improbox Radio sur TSF Jazz. Mon invité pour cet Improbox Radio numéro 6 est un spécimen rare. Il évolue entre la stratosphère et la mésosphère, c'est ce qu'on appelle la stratopause littéraire. Alors non, ce n'est pas Thomas Pesquet, lui je crois qu'il ne fait jamais de pause, et même si j'adorerais le recevoir ici, Thomas Pesquet, croyez-moi que pour suivre mon invité, il faut être prêt à traverser aussi le cosmos. Les amis, mettez vos scaphandres, parce qu'on va plonger dans un univers parallèle ce soir, puisqu'on reçoit un ovni du PAF. L'extraterrestre le plus créatif du monde du journalisme médiatique terrien, si j'ose dire. Le mec, il a révolutionné les interviews littéraires. Depuis quelques années, le gars, il a osé dire à Obama qu'il aurait aimé qu'il lui apprenne comment on fait un high five. La littérature, le cinéma, la musique, rien ne lui échappe. Celui qui interviewe tout le monde, et alors qu'il aurait peut-être lui-même un milliard de choses à nous raconter, ben j'avais envie de le convier chez nous, ici à TSF. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Monsieur Augustin Trapenard.
Salut.
C'est un peu kitsch hein, les applauses là, t'as vu?
C'est kitsch, mais merci de tout ce que t'as dit. Ça me touche infiniment.
Augustin, je suis très très très... Alors, c'est la première fois que je vais tutoyer quelqu'un, mais on se connaît depuis quelques années quand même.
Oui.
Tu m'avais invité chez toi.
Oui, c'est vrai. Enfin, donc, chez moi, dans mon émission de radio. Calmons-nous.
Et
ça vaut tutoiement.
Alors, c'est pas du tout... Je vais te dire un truc. Vraiment, on se parle entre nous. Personne ne nous écoute, évidemment. Merci, TSF. Mais c'est pas, je t'invite pas parce que tu m'as invité. Évidemment, tu sais très bien, je suis un fan depuis très, très longtemps. Alors, est-ce que quand tu travailles, quand tu interviews des gens, tu te dis parfois, j'ai moins de choses à dire que eux? Et est-ce que des moments tu te dis j'ai plus de choses à dire que eux?
Non, je te dirais que si j'invite quelqu'un, c'est précisément parce que j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de lui poser des questions, et les réponses je les ai pas. C'est précisément parce que c'est quelqu'un qui m'interpelle que j'ai envie de questionner, et il me permet justement de me questionner moi-même. Je préfère poser des questions qu'être interviewé, tu vas le sentir aujourd'hui.
Moi, si j'étais Augustin Trapenard, je trouverais tout le monde nul.
Ouais, c'est sympa, mais tu me connais pas. C'est là où on se rend compte qu'on devrait se revoyer.
Non, mais sérieux, je trouve que les éditos, les textes que tu écris, les manières avec laquelle tu présentes tes émissions, la manière avec laquelle tu conclus tes émissions, c'est toujours d'une écriture, c'est absolument sublime, c'est toujours extrêmement bien... être extrêmement pertinent, toujours détaillé, toujours extrêmement renseigné. Et je suis très impressionné par le niveau... C'est-à-dire qu'il y a une sorte de décalage entre le niveau des interviews que tu mènes et quelque part ce côté punk que tu as, capable de balancer des musiques complètement dingues juste après une discussion. Ce matin, je t'écoutais parler sur Boomerang et j'étais hyper étonné par le décalage entre l'interview que tu menais et les choix de musique que tu balançais dans la playlist.
C'est intéressant parce qu'effectivement, que ce soit le début de l'émission ou que ce soit le lancement du disque, c'est des moments qui sont extrêmement importants pour moi en radio. Je pense qu'une bonne émission de radio, c'est une émission où le disque est bien lancé, parce que la radio, c'est avant tout un disque, et j'ai quand même le souvenir et la mémoire du fait que la radio, c'est un média où on lance des disques, où on passe de la musique. Donc ça compte énormément pour moi. Pour ce qui est du tout début de l'émission, effectivement, c'est une tonalité, c'est un rythme, c'est du sens, mais c'est aussi une façon d'amener l'invité vers quelque chose. Parce qu'un entretien, et on va sans doute beaucoup parler d'improvisation aujourd'hui ensemble,
absolument,
c'est quand même un point pour aller à un autre. Puis à l'intérieur, on explose tout.
Mais tu prépares quand même beaucoup.
Énormément.
Ça se voit quand même, ça s'entend que tu prépares. Tu fais pas tes interviews comme moi, quoi.
Tu commences. Moi, ça fait 15 ans. Mais c'est vrai, je prépare beaucoup. Mais en même temps, j'ai toujours la certitude qu'une bonne interview, il faut qu'elle se lâche à un moment donné. Il faut que je déconstruise complètement et que je détruise même ce conducteur extrêmement réglé. Encore une fois, je me souviens du premier moment, de la première question. Je sais où je veux aller, mais à l'intérieur, il faut que ça bouge. C'est-à-dire que les moins bonnes interviews, c'est justement celles où tout était prévu et où tout s'est passé comme prévu.
Mais
l'improvisation, c'est ce qui permet justement le moment de radio.
Quelle est la place de la poésie dans ce que tu fais? Parce qu'il y a beaucoup de poésie, tes improvisations, tes écrits, sont extrêmement poétiques. Tu choisis jamais tes mots au hasard. C'est tout... Bah, d'ailleurs, ça veut rien dire choisir ses mots au hasard.
Non.
Tu choisis toujours tes mots, quoi.
Tu as raison, parce que j'ai la sensation que la question, puisqu'en l'occurrence, c'est quand même mon métier de poser des questions, on n'apportera pas la même réponse suivant la façon dont elle est posée. C'est-à-dire que la même question, elle peut être posée de 1000 façons différentes et la réponse, on peut la préparer. Si on pose une question de façon agressive, on aura une réponse agressive. Si on la pose avec un sourire, si on change les mots, si on fait en sorte que la question en fait se produise du sens, si on l'ouvre ou si au contraire on la ferme totalement, ça produit d'autres formes de réponses. C'est ça qui me passionne en fait dans l'art de l'entretien.
Donc c'est d'une virtuosité incroyable ce que tu es en train de décrire.
En tout cas, c'est un travail, c'est un métier, c'est quelque chose que...
C'est très musical.
Oui, tout à fait. C'est tout... Ben, oui, c'est ça. La radio, on l'écoute, hein, on l'entend. Mmh. Et ça me paraît absolument central d'insister sur cette dimension rythmique, mélodique aussi de la radio.
Il y a beaucoup de bienveillance en fait dans ce que tu nous décris là.
On n'a pas beaucoup de place aujourd'hui dans les médias pour inviter les gens qui nous intéressent. Moi, je pars du principe que ça n'a aucun intérêt. J'invite des gens, encore une fois, qui m'intéressent, qui m'interrogent. J'ai la liberté de le faire. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut produire une conversation et qu'on peut produire du sens et aussi peut-être un petit peu de beauté. Donc oui, toi, tu appelles ça la bienveillance. Tu as raison, c'est une des spécificités de mon émission, de ma façon d'interviewer. Ça me paraît absolument central et je pense que c'est une forme de résistance aujourd'hui parce qu'il suffit d'ouvrir n'importe quelle chaîne de télévision ou même certaines émissions de radio, y compris sur ma chaîne d'ailleurs, pour se rendre compte que ben, le dialogue se fait souvent dans la confrontation. Et pour moi, c'est pas si intéressant que ça.
C'est-à-dire qu'on se rend compte que peut-être à notre époque, on ne trouve des idées que dans l'adversité. On ne devient créatif. En tout cas, je le regrette aussi.
À moi aussi profondément.
C'est qu'on arrive à se renouveler qu'à travers les confrontations, comme s'il fallait qu'il y ait un clash pour qu'il se passe quelque chose de nouveau. Quoi.
Tu sais, ça m'évoque les méthodes d'éducation. Moi, j'ai jamais été cet enfant, quand on l'engueulait, quand on lui disait ce qu'il fallait faire, qui réagissait bien et qui progressait. C'était le contraire. Il fallait m'accompagner, m'emmener. Et je pense que c'est ce que j'essaye de faire tout le temps, moi, accompagner, emmener quelqu'un. J'ai quand même la sensation qu'un artiste, puisque moi, j'interviewe des artistes dont la parole, tu le sais, est une parole tremblante, trébuchante, ne va pas de soi. Contrairement à la parole très suturée, comme des points de suture du politique, de l'expert ou du journaliste.
T'as jamais invité des politiques ?
J'ai pu, à certains moments, mais c'était toujours des politiques qui avaient quelque chose à voir avec l'art ou la poésie. Je pense à une Christiane Taubira, je pense à Barack Obama récemment, je pense aussi, possiblement, tu vois, j'aurais pu inviter un Bruno Le Maire, par exemple, quelqu'un qui a un lien avec le fait littéraire, avec la poésie, parce que ça permet quand même d'emmener ailleurs, de réfléchir en fait autrement, à mon avis. J'ai pas envie, si tu veux, de recevoir des gens qui vont me lire leurs tweets. Tu sais, parce que le problème de la parole politique et même de la parole de l'expert, en fait, aujourd'hui, c'est quand elle se résume très souvent aux mêmes formules.
Ils sont formatés, en fait, par leur discours, finalement.
C'est ce que j'aime dans la parole de l'artiste, c'est qu'elle est erratique et parfois même complètement anarchique. Parfois, j'ai quand même des invités qui disent n'importe quoi, moi.
Et tant mieux, non ?
Mais c'est merveilleux.
Tu rebondis là-dessus.
Mais c'est merveilleux parce que c'est une dissidence et c'est une résistance à ce qu'on nous vend aujourd'hui. C'est-à-dire une parole complètement suturée, comme je disais, comme des points de suture. C'est pour ça que j'interview des artistes, moi. J'adore les artistes. Je ne le suis pas, mais j'adore les artistes.
Est-ce que moi quand je t'écoute dans tes émissions et quand on parle même là, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement bienveillant, comme on disait, de structuré mais en même temps de libre. Mais il y a quand même beaucoup d'extravagance, je trouve, voire même parfois une forme de subversion dans ta manière de gérer les choses. Alors on l'entend pas tout de suite en fait, on le comprend. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas poser la question, on va tous avoir l'impression que la question était très très bien faite, très bien posée, mais après on se dit, l'enfoiré, il a quand même osé poser cette question-là.
Ouais.
Et en fait, et enfoiré gentiment, hein, c'est très affectueux ce que je dis.
Non, mais je préfère enfoiré enculé. Mais c'est bien. Quoique j'aime bien enculé aussi, mais pour d'autres raisons et à d'autres moments, surtout.
Nous sommes donc sur TSF, il est encore 7h15, on y va doucement.
J'en profite.
Non, mais tu vois, c'est quoi cette histoire de... Moi, en tout cas, je te vois comme une sorte de nounours bienveillant, trash.
Tu fais référence au kilo que j'ai pris récemment.
Alors ça, j'ai pas osé regarder. Mais c'est quoi, comment tu gères ça? Parce que c'est cette dichotomie-là que je trouve passionnante chez toi. Sinon, tu serais trop lisse. Si t'étais juste un mec super qu'interviewe avec bienveillance et intelligence, on s'emmerderait. Et ce qui fait que tu es toi, c'est que derrière, il y a, pour moi en tout cas, il y a beaucoup d'extravagance. Il y a un punk derrière qui se cache et une forme de subversion. Mais dans la douceur, tu vois, t'arrives à sortir de leur confort les gens qui sont plutôt bien.
Alors, en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où quand j'ai commencé la radio, celle qui aujourd'hui est ma patronne à France Inter, qui s'appelle Laurence Bloch, m'a dit qu'il fallait que je sois moi-même, que j'apprenne à devenir moi-même. C'est une question que je pose d'ailleurs souvent à mes invités, comment devient-on soi-même ? Question qui renvoie à l'adolescence, aux étapes de la vie. Mmh. Et effectivement, je pense que ça a été toute ma vie un apprentissage en fait, de redevenir qui je suis essentiellement dans la vie et réussir à la radio, quand le rouge s'allume, d'être tout à fait
d'être
moi-même.
Soi-même. Voilà,
et de continuer à être l'enfant qui pose des questions sans cesse et qui cherche pas forcément des réponses, d'ailleurs d'autres questions qui emmènent encore une fois à des interrogations, encore une fois, et plus existentielles qu'ils soient. Moi, je suis le premier à poser des questions folles, hein, des questions qui nous renvoient presque métaphysiques, hein, quelquefois. Mais,
c'est pour ça que j'ai parlé de stratosphérique tout à l'heure.
Quand tu parles de liberté, oui, c'est vrai que je ne m'interdis pas grand-chose, ouais, effectivement. Mais c'est un privilège de ne pas s'interdire grand-chose. Ce sont des années de travail, de présence aussi, et je me rends compte que c'est une chance inouïe.
Mais on va parler du travail, on va parler de... Justement, on est à Augustin Trapenard, tu es mon invité, j'ose te tutoyer parce qu'on a décidé qu'on se tutoyait au début de l'émission.
J'en suis ravi.
On est donc sur TSF Jazz, on est en direct et on est dans une émission qui s'appelle Improbox, donc on va parler d'impro dans la deuxième partie de cette émission. Et maintenant, on va passer un petit moment musique. Un autre gars bienveillant que j'aime beaucoup et que je connais depuis quelques années maintenant, et je suis très très content de recevoir, c'est Samuel Strouk à la guitare, qui va être accompagné par Guillaume Marin à la basse et Damien Françon à la batterie, et qui vont nous jouer Lost Birds, qui est issu de son album qui s'appelle Nouveau Monde, qui vient de sortir le 5 mars.
Improbox, Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Magnifique. Oh, Lost super. Birds, Samuel Strouk à la guitare, accompagné par Guillaume Marin à la basse, Damien Françon à la batterie. C'est un nouvel album sorti le 5 mars qui s'appelle Nouveau Monde. Et alors, Augustin, moi, Sam, on s'est rencontrés il y a presque une vingtaine d'années, il me semble, à 20 ans, ouais, à New York, dans un appartement, un vieil appartement d'Harlem.
Attention, pas trop d'informations quand même, parce que là, je sens un vortex.
Non, c'était super. Et c'est, voilà, Samuel est un mec adorable, magnifique artiste qui m'a inspiré à. Beaucoup de bienveillance aussi, il y a une vingtaine d'années encore une fois. Et j'étais ravi que vous vous croisiez dans cette émission. Vous savez que vous allez vous croiser à la fin de l'émission, mais de manière artistique. C'est-à-dire qu'il va se passer un truc. Improbox, c'est ça, Augustin Trapenard. C'est ça, tu vas proposer quelque chose tout à l'heure à la fin de l'émission, une idée musicale. Et ce band derrière toi, là, les trois musiciens, on a la chance quand même de pouvoir vivre... une sorte de concert en direct à une époque où il n'y a plus de concert. Nous,
c'est
on a des petits concerts privés de fou.
C'est de faire de la radio une scène, c'est ce que vous faites, c'est fou.
Voilà, et ils vont improviser autour d'une thématique que tu vas donner, mais ça c'est tout à l'heure. Tout à l'heure, pour l'instant. je voudrais qu'on parle un peu d'impro.
Ouais.
T'es quelqu'un qui a fait beaucoup d'études.
Oui.
Avant l'émission, on a parlé de la canale, on a parlé de ton parcours.
Oui, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a une forme de chronologie spécifique pour devenir l'homme que tu es aujourd'hui? Est-ce que c'est un chemin normal que tu as suivi ou est-ce que tu as improvisé déjà tes études, ton cheminement? Est-ce qu'il a été évident?
Non. Ce qui était évident, c'est que je voulais faire quelque chose avec les livres. Depuis que j'étais tout petit, les livres, c'était un refuge. J'étais un enfant qui ne parlait pas beaucoup, qui n'était pas très cool.
C'est bizarre.
Et les livres, ça me permettait justement d'être un peu avec moi-même et puis d'inventer des mondes, de rencontrer des personnages, d'être dans une forme d'altérité. Après, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut à tout prix improviser sa vie. Et précisément, ces métiers-là. Je me méfie beaucoup aujourd'hui que je peux recruter des assistants, des stagiaires, des gens qui vont faire ce métier, des écoles de journalisme ou précisément, certains profils débarquent extrêmement formatés, avec des idées extrêmement claires de ce qu'ils veulent faire, alors qu'on apprend tout et tout le temps.
Mais c'est bien d'arriver avec un peu de certitude, un peu d'envie précise.
Mais je crois qu'en même temps, les plus beaux profils de radio sont des profils qui viennent d'un peu partout, en fait.
On fait des gammes quand on est intervieweur.
Ah, bien sûr, ouais, bien sûr.
C'est quoi les gammes?
Ouais, moi, je peux te dire que mes premières interviews...
Pour me donner des indications.
Il suffit de les regarder, mais tu verras, dans 5 ans, quand tu regarderas tes premières interviews, quand tu les réécouteras... Peux faire effectivement des exercices de diction. Tu veux que je t'en fasse un?
Et par exemple,
le Dalai Lama, la Dalalima, et casse la Daladalas de Lima au Mali, du Mali au Lima, il Lima, le Dalai Lama, la lame de la Lima, l'imam, l'imam qui le lie à l'ami de Lima, qui l'ima, qui lui dit,
c'est du rap.
C'est Dali en Lama, l'ami du Dalai Lama de l'Himalaya.
Oh là 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 là. Qui a écrit ça?
Mon prof de théâtre quand j'avais 10 ans, je pense. Giancarlo Ciarapica.
Donc ça, c'est le côté plus diction.
Oui.
Et puis après, il y a les informations qu'on va vouloir. Est-ce qu'il y a une technique pour faire dire un truc à quelqu'un qui ne veut pas dire ce truc?
Oui, bien sûr.
Comment on s'entraîne pour faire ça?
Oui, c'est l'écriture de la question.
Et effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement.
C'est exactement ça.
Donne-nous un exemple. Tu as des exemples comme ça? Est-ce qu'il y a un truc, par exemple, que... Oh, alors, tu as interviewé Obama.
Ouais.
Voilà. Mais est-ce que toutes les questions ont été envoyées en amont,
non,
comme on peut l'imaginer?
Non, pas du tout. En revanche, il y a eu effectivement une rencontre par Zoom auparavant avec son staff où il a pu cette question de temps. On m'a plus expliqué qu'il prenait énormément de temps pour répondre aux questions, que c'était difficile de le couper, qu'il fallait prévoir un certain nombre de questions. Et moi, j'ai dit que j'allais toujours partir du livre pour lui poser des questions. Après, c'est tout ce que j'ai dit, en fait.
Ils t'ont pas dit ne posez pas cette question?
Non, pas du tout. Et je pense qu'en fait, c'était pas le... J'avais une liberté totale. En plus, Barack Obama étant un homme politique, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas peur en fait des questions et qui est capable de répondre à peu près à tout.
Donc il n'y avait pas un truc que tu avais envie de lui faire dire?
Non, j'ai dit tout ce que je voulais. Ah, moi, si je devais refaire l'interview, je la ferais pareil. Hein.
Pareil.
Pas, ouais. Et heureusement d'ailleurs, ça serait triste que j'ai quand même beaucoup travaillé cette interview. En revanche, je pense que le problème se pose plus pour les artistes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes qui débarquent en fait dans un studio armés d'un attaché de presse ou de plusieurs. Je pense à certains artistes américains par exemple, avec des interdictions. Moi, je refuse systématiquement une interview où on me dit en amont, tu ne pourras pas poser cette question. Je pense par exemple à Woody Allen, que j'ai refusé d'interviewer à 3 reprises pendant une session de radio parce que j'avais pas le droit de poser certaines questions.
En plus, est-ce que tu l'aurais posé cette question?
Alors déjà, t'as raison, le fait qu'on me dise ne la pose pas, ça me donne une envie irrésistible de la poser, c'est la raison pour laquelle je ne le reçois pas. Mais je pense que je l'aurais posé parce que toutes les questions se posent, mais simplement, je l'aurais amené de façon intelligente, sans aucune forme d'agression. Mm-hmm. Je te donne un exemple.
Limite, tu lui aurais peut-être même donné l'occasion d'expliquer des choses qui n'a pas... Mais bon, si...
Peut-être. peut-être.
Si les attachés de presse ont dit ça, c'est peut-être parce qu'il veut pas répondre.
Oui, mais ça m'est arrivé, tu vois, un jour j'ai reçu le jeune acteur Timothée Chalamet dans mon émission, mmh. et juste avant, mais alors juste avant, c'est-à-dire
d'origine française, il me semble.
Ouais, une minute avant, l'attaché de presse me dit surtout aucune question sur tel sujet. Alors, j'ai dit à l'attaché de presse, si, en fait, je vais lui poser une question. Et ce qui était assez intéressant, c'est que lui était tout à fait prêt à répondre. Il a fini par répondre, et dans l'interview, on l'entend très bien. C'est juste une façon, effectivement, de poser les questions. Je pense.
Ce qui fait peur un peu, là, je le dis plus en tant qu'artiste qu'en tant qu'intervieweur, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on va nous poser une question qui fâche. Et c'est rare, c'est pour ça que je parlais de bienveillance tout à l'heure avec toi, parce qu'on sent bien qu'on peut parler de tout,
oui.
toutes les questions vont être posées, mais que ce sera jamais fait de manière indélicate, quoi.
Il y non, toujours... et agressif, parce que je pense qu'il ne sort rien de l'agression, en fait. À part quand c'est un intervieweur qui est agressif, une mise en lumière de lui-même.
Et là, t'improvises.
Mais non, mais c'est surtout une mise en lumière de lui-même. C'est-à-dire que moi, je vois certains intervieweurs, si tu veux, qui attaquent leur invité, et je me pose la question, qui est-ce qu'ils mettent en lumière, en fait ? Eux-mêmes, tout simplement. C'est-à-dire qu'en écoutant leur interview, on va se dire, ah là, quel bon intervieweur. Pour moi, c'est la catastrophe. Si on écoute mon émission et qu'on dit, quelle interview magnifique, c'est un problème. Ce que j'aimerais, si tu veux, c'est qu'à l'écoute de l'interview, on se dise, quel artiste incroyable est-ce que je viens juste de rencontrer. Tu vois, là, j'ai préparé une interview que j'ai enregistrée. Pour le coup, c'est un vieux monsieur que tu connais sans doute, qui s'appelle Michel Portal, que je reçois, je pense, la semaine prochaine ou dans deux semaines. Et on a commencé l'interview, justement, sur l'improvisation. Je voulais faire une émission très musicale, un peu comme toi, avec trois ou quatre moments musicaux joués.
Lui, il improvise beaucoup hein, quand il parle aussi.
Hein. C'était merveilleux. D'ailleurs, il m'a dit quelque chose d'incroyable sur l'improvisation. Tu veux que je te le dise ?
Allez.
Il m'a dit que l'improvisation, c'était un souvenir d'abord. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'en improvisant,
on crée quelque chose de nouveau,
mais en fait, c'est d'abord un souvenir et on imagine à partir d'un souvenir. Et à sa réflexion, je me suis dit, tu sais, Ibrahim, je me suis dit que l'improvisation, c'était sans doute cette forme tout à fait étrange qui éclate tous les temps. C'est-à-dire que c'est le présent, le pur présent, on est dans le présent. C'est en même temps le souvenir de quelque chose qu'on a déjà entendu et qu'on retravaille, et c'est la promesse d'un futur. Parce qu'il y a un moment donné où ça va s'arrêter.
Est-ce qu'on pourra reprendre cette phrase, de la découper et de l'utiliser dans les prochaines émissions en intro de l'émission Improbox? Tu décris l'improvisation avec des mots.
C'est Michel Portal.
Avec tes mots. Bon, allez, on pourrait faire une émission de 3 heures avec toi en fait.
Attends,
en
j'ai envie d'écouter de la zik, pourquoi je suis là?
Alors, on va faire juste une petite, on dit page de publicité, mais c'est très très court, ça fait même pas une minute. Et juste après ça, on écoutera. Samuel Strouk à nouveau, accompagné par Guillaume Marin à la basse et Damien Françon à la batterie. Il est à la guitare, Sam Strouk, et il jouera un titre qui s'appelle Made in France de Birelli Lagraine. C'est juste après ça.
Improbox.
Et en réalité, la vie, c'est improvisation.
Le B.A.B.A. d'Ibé.
Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin.
Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Et on va écouter maintenant donc Made in France, une musique de Birelli Lagraine. Samuel Strouk à la guitare. Thank you.
Improbox, Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Samuel Strouk. D'ailleurs, Samuel, on dit Sam ou Samuel? Comment tu dis Sam Strouk? Sam, comme on veut, il est tellement cool. Pas de souci. À la guitare, Guillaume Marin à la basse, Damien Françon à la batterie. C'était un titre qui s'appelle Made in France de Birelli Lagraine. Merci pour ce petit moment de concert de fou. On a une chance incroyable de pouvoir être en live là avec vous, en direct sur TSF Jazz. Et de pouvoir vivre une sorte de mini concert, une sorte
c'est
de showcase inouï. Privé, c'est quand même un truc de fou là. Ça
c'est,
fait un an.
C'est une chance inouïe.
On n'en peut plus. On n'en peut plus. Heureusement qu'il y a, ouais. Heureusement qu'il y a un peu de ça quoi.
Et heureusement que la radio peut permettre ça justement de la scène.
Ouais. Voilà, merci Sam Strouk. Alors tout à l'heure, les trois musiciens qui sont là sur cette petite scène derrière toi, Augustin Trapenard, vont improviser. C'est un peu le concept de cette émission, hein, Improbox. Ils vont improviser sur une idée que toi, tu vas créer, que tu vas générer. C'est-à-dire que tu vas inventer un truc et ces super musiciens derrière toi, l'idée par Sam Strouk, Samuel, vont improviser cette idée et la développer, tu vois. Toi, tu vas dire, voilà, moi, je voudrais qu'on parle de tel et tel et tel et tel sujet et eux, ils vont faire toute l'émission après. Voilà.
C'est bien parce que c'est pas du tout stressant.
Ça te parle, le jazz? T'écoutes du jazz? T'écoutes beaucoup de jazz ou pas?
D'ailleurs, tu parlais de la programmation musicale de mon émission le matin sur France Inter et c'est vrai qu'il y a une couleur 50s, 60s. J'ai grandi avec les grands standards de la Fitzgerald, de Billie Holiday, de Dinah Washington, mais aussi, je me souviens de très belles interviews qui ont été magnifiées à mon avis par le disque, et je pense notamment à une interview que j'ai faite de Toni Morrison juste avant l'élection du président Trump. On pensait pas forcément qu'il serait élu et j'avais lancé le disque et j'avais lancé un Summertime de Mahalia Jackson qui était absolument somptueux, et je me souviens de son rire en fait dans la résonance de cette introduction. C'était absolument magnifique, et après elle m'avait expliqué qu'elle avait grandi en écoutant sa mère chantant Mahalia Jackson.
Ah, wow.
c'est une
peut-être
couleur,
tu l'avais pas fait exprès en plus.
Non.
Mais c'est là où quand t'improvises un truc, tu as une idée et elle matche avec ce que tu veux raconter parce que tu le fais de manière instinctive
en
aussi.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que le choix de ce disque au milieu de l'émission est absolument central parce qu'il donne une couleur, il répond aussi peut-être à une forme d'interview, à une tonalité. En fait, la bonne interview, c'est quand même la bonne tonalité. Hein. Il faut trouver la bonne tonalité.
c'est la culture qui fait ça. C'est-à-dire, est-ce que pour être un bon intervieweur, il faut forcément être extrêmement cultivé?
Je crois pas. Je crois qu'il faut être très curieux. Je crois qu'il faut toujours vouloir se poser des questions et en poser aux autres. Mais ça, c'est rare. Et c'est quelque chose qui se travaille aussi. Je pense pas que... Si tu veux, c'est bien d'avoir fait les études que j'ai faites parce que c'est un bagage.
L'éloquence, alors?
Peut-être. Mais je sais pas si je suis très, très éloquent. Moi, je suis très éloquent quand le micro s'allume, quand le rouge intervient dans le studio. Sinon, dans la vie, pas vraiment. Tu sais, je suis comme tout le monde.
Parce que dans la vie, tu
un peu trop branché sur mon téléphone. Et...
Ah ouais?
Et sinon, en train de lire.
C'est marrant.
Et
t'imagines pas du
tout
sur
ton...
Quand t'es tout seul, tu parles pas, ouais.
Bah non, mais quand je lis, je parle
pas. Et t'es rarement tout seul, si?
Si, je prends beaucoup de temps, justement, pendant la journée pour lire. 3, 4, 5 heures.
T'es pas tout seul si tu lis, alors?
Non, c'est vrai, j'ai plein de fantômes.
T'es dans un monde parallèle?
Plein de fantômes. Ouais, c'est vrai.
Je parlais de jazz, mais ton rapport avec le cinéma, on te connaît quand même comme intervieweur ciné.
Aussi.
Et donc, c'est une vraie passion chez toi, la ciné. Donc, le jazz, le ciné, il y a un lien également ou rien à voir?
J'ai une passion pour les artistes, tu as raison. Donc à partir de ce moment-là, j'aime tous les interviewer. Et je te dirais que moins je connais, pour répondre aussi à ta question précédente, moins je connais un art et plus aujourd'hui, avec l'expérience, j'arrive à faire une interview intéressante. Pourquoi? Parce que cette curiosité-là et cette intensité de la question...
Donc tu poses les vraies questions qui
on la ressent plus jamais. Par exemple, tu vois, je pense que certaines des plus belles interviews que j'ai pu faire, c'est des interviews de danseurs. Je connais pas très bien
la danse.
J'aime beaucoup ça, mais c'est une syntaxe, un vocabulaire qui produit en fait soudain un moment extraordinaire. Et en posant des questions très basiques, je me souviens un jour, je recevais cette grande chorégraphe qui s'appelle Anne-Theresa Kersmaker dans Boomerang. Et justement, je lui ai demandé à un moment donné, comme ça, à quel moment on danse en fait? Quand on marche dans la rue, à quel moment ça devient en fait un pas de danse? Et là, elle a pris ma main et elle a commencé à la taper contre la table du studio et elle m'a fait danser. Ouais, ça, c'est extraordinaire. Quand l'interview se retourne
juste la
contre
main.
Soi.
C'est donc la main s'est mise à danser.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et elle m'a dit, là, vous dansez. Ouais.
Mais ça peut être mal pris comme question, d'ailleurs. À quel moment faut danser? C'est ce que ma mère de dire, il n'y a pas vraiment de moment, on ne sait pas trop comment...
Ça, c'est un élément de réponse. Pourquoi on danse?
C'est vrai.
À quel moment on danse?
Il y a des gens qui dansent jamais.
Tu crois? Je crois que la danse, elle est dans le geste. Et on en fait tout le temps, des gestes.
C'est dans le cœur.
Ouais.
Peut-être. Alors, tu vois, la poésie, on peut pas s'empêcher de faire de la poésie avec toi, Augustin Trapenard, c'est un truc de fou. Est-ce que tu te considères comme une grande gueule?
Alors, je peux l'être. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un gros défaut, c'est que j'aime pas trop me faire embobiner. J'aime pas trop me faire dicter. Tu sais, on parlait de la liberté tout à l'heure. C'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Et quand on a tendance à me faire une leçon, je peux vraiment être en colère. Je suis assez colérique. Je suis très exigeant. J'ai plein de défauts. Hein. Je suis très exigeant envers les autres.
T'es un peu d'ego, quoi, en fait. Les gens, t'as pas envie qu'on prenne pour un idiot, quoi.
De toute façon, quand on fait ce métier, on en a de l'ego. Quand on est un artiste comme toi, on en a aussi. Il faut arrêter ce mythe de l'humilité totale. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Moi, je me souviens quand j'ai commencé la télévision, je résistais beaucoup aux gens autour de moi qui me disaient « T'es pareil, c'est normal, c'est la vie de tous les jours. » Non, c'est pas normal d'avoir 24 caméras qui sont branchées sur toi. Ça révèle quelque chose, l'envie d'être regardé.
Ce que tu m'as dit avant l'émission, on a le droit de le dire sur cette prof, ou tu l'as déjà dit en public ou pas?
Non, jamais, mais tu peux, vas-y.
On peut le dire, tu m'as dit tout à l'heure quelque chose qui est très très touchant. C'était une professeure d'une école, on peut la citer également.
Ouais, le lycée La Canale.
Le lycée La Canale, voilà, on en a parlé parce que j'étais... Enfin bref. Et tu m'as dit ce truc qui m'a beaucoup touché. Tu m'as dit, cette prof un jour m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, arrête de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas.
Ouais.
Mais c'est quand même fou de dire un truc pareil à un gamin de 20 ans.
Au demeurant, c'était une très grande prof de français. Mais je me souviens effectivement d'avoir été très troublé et de m'être dit...
Mais c'est méchant,
surtout. De dire ça à un adolescent, c'est terrible. Parce que quand on est adolescent, on est effectivement dans ce moment où on se cherche, où on essaye sans cesse à travers des modèles d'être quelqu'un qu'on n'est pas pour devenir celui qu'on sera.
Mais c'est tout l'art, surtout.
Et en même temps,
mais
l'art,
c'est ça, ouais. On est d'accord. C'est d'essayer de s'améliorer en étant quelqu'un d'un peu meilleur que ce qu'on serait peut-être, en espérant que ça nous touche suffisamment pour s'améliorer.
Mais en même temps, cette phrase, elle m'a marqué, tu comprends. Et je pense qu'elle a fait aussi
mais
de moi
ce que
trop je suis aujourd'hui.
Elle avait trop d'égo, cette prof. C'était elle, la grande gueule.
Elle avait trop d'égo, Evelyne, là.
Evelyne, c'est ça?
Elle s'appelait Evelyne, ouais.
On pense à Evelyne. C'est l'improvisation de tout à l'heure, on lui donnera un titre, ça peut être Evelyne. Est-ce qu'il y a une question que tu n'as jamais osé poser à des invités? Enfin, une question que tu rêverais de poser, mais que tu n'as jamais osé faire?
Non. Non, justement.
Vraiment tout?
Oui, bah, je me souviens, toi tu peux considérer peut-être que ce sont des questions qui sont... incongru, mais je me souviens avoir demandé à deux ou trois reprises à certains invités qu'est-ce qui les faisait jouir, par exemple. Ça peut paraître être une question très intime, très violente, mais dans l'exercice de leur métier, de leur création, ça avait un vrai sens.
Et toi, qu'est-ce qui te fait jouir?
Les mots. Les mots me font jouir. Je fais partie des gens, effectivement, qui sont moins dans le contact que dans le langage, en fait, sans cesse, et même sexuellement.
Alors, est-ce que vous êtes une grande gueule? Alors ça, j'ai déjà demandé. Non, mais c'est super. Alors, attends, on revient à un truc un peu plus, plus jazz. Dis-moi, le high five quand tu lui as demandé à Obama.
Ah oui, à la fin.
Ça, c'était prévu ou c'était improvisé?
Non, il était content surtout.
Mais tu l'avais prévu?
Bah oui, oui.
Tu l'avais écrit,
oui,
tu t'es dit, allez, je vais lui demander.
Non, j'avais pas écrit, mais j'avais prévu effectivement à la fin. Si tu veux, le problème avec ces interviews qui sont quand même très suturées, c'est quand même un grand homme politique qu'on reçoit, qui aussi... avec un livre, c'est pas n'importe
mais
quoi.
Mais c'est marrant que tu parles de. Pardon, je te coupe, ouais. Mais c'est marrant que tu parles de suture.
Ouais.
Parce que suture, c'est la douleur quand même, c'est la cicatrice
vrai.
Quand même.
Ouais, c'est vrai.
Pourquoi tu prends cette métaphore-là?
Parce que ça m'angoisse en fait, tout ce qui est suturé. Donc il fallait à un moment donné envoyer des signaux de liberté. Et effectivement, ça passe par un disque que j'ai choisi, dont il parle d'ailleurs dans son livre, qui est Lose Yourself d'Eminem. Mm. Je voulais qu'au moins 3 ou 4 questions de l'interview tournent autour d'Eminem, parce que je trouvais ça intéressant de l'entendre comme ça, sur un thème.
Ouais, d'argumenter un peu, quoi, aussi, parce qu'il peut citer Eminem, mais juste pour l'image, t'as envie de savoir si c'est
voilà.
Vraiment un truc de fond
et
ou pas.
Et en fait, ça avait un vrai sens, surtout, ouais. Puis ça fait partie de sa culture, donc ça, je trouvais ça intéressant de me servir de ça comme support, en fait, d'interview. J'avais envie de jouer, c'était difficile de jouer un peu avec lui, parce que c'est quelqu'un qui... Et puis on est aussi immédiatement impressionné, enfin, par sa parole, par sa prestance, par son charisme.
C'est quelqu'un,
on n'est pas Barack Obama pour rien.
Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voudras jamais inviter? Est-ce qu'il y a des gens,
oui,
comme ça, tu te dis ça jamais?
En fait, je vais te dire.
Mais pas par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure,
non.
C'est-à-dire avec les interdictions. Je parle vraiment des gens,
ouais.
Tu te dis ça, vraiment, je le ferai jamais.
Oui, je vais te dire, les gens dont je suis trop fan. Parce que je pense que ça donne des interviews très problématiques.
Mais moi, je suis fan de toi.
Tu
trouves que l'interview est problématique? Il y a peut-être des gens qui le pensent.
Hein. Non, mais dit-il.
Je suis pas trop fan, je suis fan.
Voilà, c'est ça. Alors, moi, je me souviens d'avoir fait une interview de John Baez que j'écoutais quand j'étais petit avec mes parents tout le temps. C'est une interview qui est difficile pour moi parce que c'était celle que j'avais écoutée toute ma vie.
Trop de signification derrière.
Voilà, trop de signification. Peur à un moment donné de poser une question qui ne renvoie à rien aux auditeurs mais simplement à moi-même. Rentrer dans des formes de gimmick trop personnels, c'est dangereux.
Ou les politiques, peut-être certains politiques aussi.
Oui, alors ça, pour la raison dont on parlait
tout
à l'heure,
leur
parole, en fait, si tu veux, me pose un certain nombre de problèmes. J'ai peur d'être complètement enfermé en fait dans une interview. Et surtout, si jamais je prends le contre-pied de ces interviews, tu vois, ça a déjà été fait, hein, des interviews politiques qui sont un peu rock'n'roll, qui partent un peu dans tous les sens. En fait, je serais déjà dans un cliché. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément intéressant, moi, je pense, d'un point de vue journalistique, de les interviewer aujourd'hui.
Et est-ce que tu es un militant? Tu milites?
Je milite pourquoi? Pour,
je sais pas, est-ce que tu as des causes pour lesquelles tu milites?
Oui, tu as raison, il y a 3 ans, ma vie a complètement changé. C'est drôle que tu me poses cette question, on n'en a pas du tout parlé avant. Je suis devenu le parrain.
Non, parce que, tu sais pourquoi? Parce que, pardon, je t'interromps.
Non,
c'est toi qui devrais parler, pas moi. Non, mais parce que quand on parle souvent de politique, les gens confondent le militantisme et la politique.
Non, mais
on peut être militant sans être du tout dans la politique.
Je vais te raconter, en fait, il y a 3 ans, je suis devenu le parrain d'une association, d'une ONG qui s'appelle Bibliothèques sans frontières. Et depuis 3 ans, je parcours le monde dès que j'ai une semaine de vacances ou les week-ends et toute la France. Pour voir et pour témoigner de leurs programmes. Ce sont des programmes en fait qui luttent tout simplement pour promouvoir la culture, l'éducation et l'information.
Bibliothèque sans frontières.
Dans des zones, tu vois, où c'est difficile, où c'est empêché, auprès de populations vulnérables. Et ça peut aller d'un camp de réfugiés où je me suis rendu, le camp de réfugiés de Koutoupalong, par exemple, jusqu'au Burundi, où on a un programme magnifique avec les enfants des rues, en passant par les États-Unis, où on a installé à Baltimore des bibliothèques dans les lavomatiques, parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, c'était là où les populations noires les plus précaires avaient le seul lieu de sociabilité. Ce sont des programmes qui fonctionnent. On en a en France, on en a partout. Et j'invite tous tes auditeurs à se rendre sur le site de Bibliothèques sans frontières.
Et même en France, on en a besoin, moi, je trouve.
Oui, et on a des très beaux programmes pour lutter contre les situations d'illettrisme dans le nord de la France. Mais également, on a un programme magnifique en France, à Marseille. On a installé des bibliothèques dans les cours d'immeubles, si tu veux, en profitant de toute la sociabilité, si tu veux, de la cour d'immeubles, des grands frères aussi, pour permettre d'accéder, si tu veux, à une information qu'on n'aurait pas forcément ailleurs. Et tu sais, pendant des années, j'ai dit dans mon studio de radio ou dans mon plateau de télé, j'ai dit que la culture sauvait le monde, mais j'en avais pas la preuve. Et avec cette association, j'en ai eu la preuve. Donc ouais, je milite profondément.
Et tu te souviens, il y a une... Bon, on est à peu près le même âge. Quand on était très jeune, on nous disait souvent aux États-Unis, les gens ne lisent pas, il y a une sorte d'inculture, etc. Et tu n'as pas l'impression qu'ici, ça devient de plus en plus vrai aussi? Et que les gens le lisent de moins en moins, ils passent le plus de temps à swiper sur leur téléphone, à lire des articles courts, des tweets. Ils ont l'impression qu'en lisant un tweet, ils ont tout compris.
Ouais, mais tu vois, tu dis quand même lire. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on est quand même dans une société de l'écrit. Je me rends compte qu'il y a énormément tu vois, un môme devant son téléphone portable, il lit quand même un petit peu. Mais effectivement, c'est difficile pour l'objet livre de survivre, de continuer à exister. Je pense qu'il continuera à exister, moi, parce que je pense que c'est un objet magique, totalement magique. Et quand on l'ouvre, il se passe quelque chose d'inouï. Et je peux le vérifier, tu vois, avec Bibliothèques sans frontières, par exemple, je me souviens d'avoir fait des distributions de livres à des mômes qui sont fascinés aussi par les iPhones et par toutes sortes de téléphones.
Mais tu penses quoi du livre numérique?
Dans
le livre numérique, t'en penses?
Moi, je l'utilise parce que...
Mais là, t'ouvres plus rien, là.
Non.
T'as plus l'odeur,
mais tu sais, maintenant, ils sont quand même extrêmement bien faits. Mais en même temps...
Ouais, mais il n'y a plus le côté charnel du truc que tu gardes avec toi.
C'est très important pour moi. Et évidemment, j'ai un attachement quasi érotique à l'objet livre. T'as raison, Ibrahim. Mais en même temps, j'ai pas envie de sacraliser l'objet livre, si tu veux. C'est quelque chose qui me fait peur parce que j'ai rencontré quand même à travers ces voyages avec Bibliothèques sans frontières beaucoup de gens qui avaient peur de l'objet livre, qui avaient peur du mot culture, qui avaient peur de la littérature, qui n'osaient pas en fait aller dans ces lieux de culture. J'ai envie de montrer que c'est pour tout le monde, que c'est désacralisé et que tout le monde peut avoir cette jouissance en fait de lire. Donc effectivement, ça peut être sur une tablette.
Tu écris?
Non, j'écris pas. Enfin, j'écris pour mon émission. Mais pas vraiment, parce que je suis pas un artiste, moi. C'était trop bien pour les interviewer depuis 15 ans ce que c'est que l'urgence et la vocation de l'art et les sacrifices qui peuvent aller avec. Tu sais, moi, je suis un gros amateur d'art. J'adore lire, j'adore écouter de la musique, regarder des films. Et j'ai la chance de faire ce métier où non seulement je suis payé pour le faire, mais en plus je peux répondre et dialoguer et discuter.
Oui,
à
mais tu pourrais être
j'aime.
Encore plus payé pour écrire.
Tu sais, moi j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas cette espèce de soif de tête milliardaire.
Est-ce que on va revenir vers la musique j'avais quand même une petite question avant de passer.
Shoot.
Est-ce que ouais parce que c'est justement une petite dernière j'avais noté, mais est-ce que des fois ça t'arrive de culpabiliser après une interview? Tu dis oh, merde, j'aurais pas dû demander ça, merde, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Enfin, j'imagine oui, parce que t'es quelqu'un de sensible. Mais est-ce qu'une vraie un vrai sentiment de culpabilité, genre la personne est partie, tu t'es dit là, j'ai merdé?
Ça m'est arrivé, forcément. J'ai pas d'exemple précis en tête. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je suis jamais très content d'une interview. Je pense qu'en sortant d'une interview, il est important de voir où ça a un petit peu péché, pour pouvoir faire en sorte que la prochaine fois ça ne se produise pas. C'est là où on continue d'apprendre en fait, année après année, mois après mois, semaine après semaine, émission
on
après
continue
émission.
D'apprendre.
Et la chance d'avoir une quotidienne, ça t'arrivera bientôt parce que t'es quand même super, c'est que tu progresses en fait à une vitesse folle. parce que et puis surtout quand tu fais une émission, tu l'as déjà oublié, le lendemain elle a été déjà substituée par une autre.
Mais consommée presque.
Mais culpabilisée, oui, quelquefois j'ai fait preuve à mon avis de maladresse et c'est dommage. Mais surtout, ce qui est
Tu t'en rappelles pas particulièrement?
Non, mais je sais que je le paye, c'est-à-dire que quand je vois les interviews qui pour moi se sont pas bien passées, je me rends compte que c'est parce que je les ai mal lancées. Tu vois, on parlait du billet d'introduction tout à l'heure. Mm. Quand le billet d'introduction il est à côté, et ben l'invité va pas répondre, peut se sentir heurté.
Mais t'as pas décoré ton émission comme il fallait,
ouais, je l'ai pas lancé de la bonne façon. Et moi, mon métier, c'est d'être un catalyseur, justement. Un catalyseur de beauté, en fait, aussi, j'espère, mais de sens aussi à
bon. L'époque. Oh, Augustin Trapenard, on va faire de la musique.
Arrête, je stresse.
Mais si, on est sur Improbox, bon, sur TSF Jazz. Okay. Augustin Trapenard, tu es mon invité, vous êtes mon invité, okay. Augustin Trapenard. Et nous avons un autre invité, c'est Sam Strouk, à la guitare. Et on va parler un peu musique, deux secondes quand même, pour rentrer dans ce délire un peu, parce que j'explique à nos auditeurs ce qui va se passer. Donc, dans cette émission Improbox, qui a lieu tous les troisièmes mercredis du mois à 19h en direct, j'invite quelqu'un au plateau, on papote. C'est pas un musicien, c'est pas un compositeur. Et cet invité-là va créer avec l'invité musique, une nouvelle musique qui n'existait pas avant et qui est inventée en direct là.
Waouh.
Donc c'est ce qui va se passer dans quelques secondes. Et avant, juste quand même pour qu'on sache un peu d'où tu viens musicalement. Est-ce que t'as déjà fait du solfège par exemple? Est-ce que
ouais, j'ai fait du solfège. C'est le mec qui dit j'ai fait de la flûte à l'école.
T'as fait de la flûte à l'école?
Bah ouais,
j'ai fait
de la flûte à bec. J'ai fait du piano et j'ai fait un peu de batterie.
Ah ouais, ouais, si, quand même.
Bah, je te parlais de rythme quand même pendant toute l'émission, c'est pas pour rien.
D'accord. Donc tu es un... T'as commencé à quel âge? T'as arrêté à quel âge?
Je pense que j'ai commencé, tu vois, vers 8 ans le piano, j'ai arrêté au bout de 3 ans, et j'ai commencé la batterie quand
j'avais 13 ans. Pourquoi t'as arrêté? C'est tellement dommage.
Je pense que... C'est l'éducation en fait du piano. Je pense que je le prenais comme une forme de travail extrascolaire, comme une violence en fait. Et ce qui est dommage.
Il n'y avait pas de plaisir.
Sais, ma mère me disait toujours, c'est dommage que tu arrêtes parce qu'il n'y a rien de plus beau quand tu auras 40 ans, tu vois, c'est aujourd'hui, j'ai 40 ans, de rentrer chez toi, de te mettre à ton piano et de jouer quelque chose. Ah, peut-être raison.
Là, du coup, maintenant, tu arrives, tu fais de la batterie. Tu fais de la batterie, non?
Dans mon émission, je fais du rythme, ouais. Je pense que c'est ça, notre métier.
Et bon, d'accord. Et t'écoutes un peu de tout, j'imagine.
Ouais, mais j'écoute beaucoup de jazz. C'est pour ça que je suis super content d'être là.
Tu sais que t'es pas obligé de dire que t'écoutes
du
jazz.
Non, mais je te le dis. Mais d'ailleurs, ça se ressent dans mon émission parce que, comme je te le disais, je passe beaucoup de jazz le matin à 9h. Donc, des grands classiques. Ouais.
Et toi, en tant que musicien, donc là, tu as des petites notions de batterie.
Ouais.
Un peu de solfège parce que t'as fait un peu de piano. T'as fait quoi? T'as dit de guitare aussi, ça?
Non,
flûte.
La flûte à bec.
Flûte à bec, ok. D'accord.
Et cette conversation est folle.
Pour donner. Non, mais parce que il va falloir qu'à un moment donné que tu.
Ouais,
y passes,
j'ai une idée, je crois.
C'est vrai?
Ouais, je crois.
Bon, voilà. Alors écoute, tu sais quoi? Regarde. Ouais. Dis-moi.
Je te le dis.
Ouais, ouais. Bah oui.
Ok, parce que je suis complètement fasciné par ces musiciens qui imitent leur instrument. Et comme t'es trompettiste et que t'es en face de moi, je pense à Louis Armstrong. Et Louis Armstrong, dans un superbe enregistrement à Berlin...
Il a imité la trompette.
...de McDonough, il imite la trompette. Et il a un moment que je vais te faire, du coup, en espérant qu'il puisse suivre.
Trop bien. Mais alors, attends, t'as pas compris. Non, le principe, c'est que tu dois inventer un truc.
Ouais,
ne te cacher derrière Louis Armstrong pour nous balancer un truc qui existe déjà.
Non, parce que je vais le faire.
J'ai pas compris. Ah d'accord, donc tu vas improviser un truc, mais une sorte d'hommage à Louis Armstrong dans cet enregistrement-là.
Ouais, ça marche.
Dans ce live-là, d'accord, très bien.
J'ai un peu peur.
Bon, alors regarde ce qui va se passer. Donc tu vas nous proposer ton idée.
Ok.
D'accord. Les musiciens vous écoutez évidemment. Vous vous concentrez sur ces idées-là. Hein. On a Samuel Strouk à la guitare, Guillaume Marin à la basse et Damien Françon à la batterie. Vous ingurgitez évidemment les idées que va nous donner Augustin. 30 secondes après, vous attaquez votre improvisation. Ok, on est prêt?
Okay.
C'est le petit moment de l'improbox.
On fait quoi?
Rien. On médite. Les gens vont écouter 2-3 petites annonces. Ça va durer 20 secondes.
Ok, nickel.
Et c'est parti. Alors, c'est parti. Je crois que les auditeurs nous écoutent normalement. Concentrez-vous, chers auditeurs, parce qu'il va se passer un truc de fou. Juste après ce petit moment, évidemment, donc Augustin Trapenard va aller signer sa petite fiche de la SACEM, puisque c'est lui qui a inventé cette. Non, je déconne. Bon, vous êtes prêts? T'es parti. Augustin, okay. C'est à toi.
On y va?
Allez. Alors, est-ce que ça vous inspire, les gars? Non, je sais pas. Ça vous inspire? Il y a un petit côté à Louis Armstrong, ça vient dans la voix.
Un peu, je t'en ai parlé.
Après, vous pouvez prendre la tonalité que vous voulez, les amis. Hein. Vous faites comme vous voulez.
Bon, ça va ou pas? J'ai bien fait.
Tu veux le refaire une deuxième fois?
Ouais.
On va très bien, ce sera l'idée. Allez, on se retrouve dans quelques secondes très 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 courtes et nous aurons la chance d'écouter la version nos invités.
Improbox.
Donc l'idée, c'est vraiment de faire de l'improvisation aussi pour s'amuser.
Le B.A.B.A. d'Ibé.
Non mais ça te permet d'inventer, ça développe l'esprit d'inventivité.
Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Alors Augustin Trapenard vient de nous proposer une idée, une sorte d'hommage à Louis Armstrong d'une certaine manière en imitant la trompette. Et nos invités en direct sur TSF Jazz vont maintenant improviser autour de ce thème qui a été inventé par Augustin. Et nos invités musique, c'est Damien François à la batterie, Guillaume Marin à la basse et le tout l'idée par mon ami guitariste Samuel Strouk.
Improbox, Ibrahim Maalouf, c'était SF Jazz.
Voilà, tellement Stroke, bien.
Sam Strouk à la guitare, Guillaume Marin à la basse, Damien François à la batterie et cette petite sorte de blues ragtime djangoïste. Trop bien. Voilà, ça donne la banane. Hein, ça,
mais grave.
C'est trop bien.
Augustin, et tu sais, ça va bien avec ce qu'on disait tout à l'heure, que l'improvisation, c'est un souvenir aussi. C'était beau. C'était
là, on vient d'en créer un, grâce à vous, en tout cas. Vous avez créé un souvenir. C'est un petit moment qui n'existera plus, qui n'a jamais existé.
Tu sais quoi, j'ai envie de te prendre et te mettre dans mon salon, là. Tout le monde. Tout le monde. Même notre réal, là, aujourd'hui. Je vous vois dans mon salon le dimanche.
Ben voilà, et ça c'est le bonheur et la chance qu'on a de pouvoir avoir le droit de se rencontrer pour faire cette émission et avoir le droit d'inviter des musiciens. J'espère que très très bientôt, on va pouvoir à nouveau retrouver les scènes et se revoir tous pour des concerts, des spectacles, des films. Voilà, et alors là, lire c'est super, mais ça peut faire du bien aussi de sortir.
Ouais. Ouais.
Hein, on est
c'est
d'accord.
Quoi, on peut même lire dehors, si tu veux.
Ouais. On peut lire dehors, ouais. Et on peut faire de la musique dehors, mais je sais pas si c'est très autorisé. Je sais pas, faudrait qu'on demande à nos amis politiciens si on a le droit de sortir. Il y a beaucoup d'interdits en ce moment.
Ouais, je sais. Mm. Et j'ai l'impression qu'il va peut-être y en avoir d'autres. C'est Laurent Sapir qui nous a foutu le bourdon là juste avant. Tu sais que je le connais, hein, quand j'ai commencé à Nova, quand j'étais tout jeune, il était à côté déjà dans le bureau d'à côté à TSF. Ça fait des plombes qu'il est là. Non, je l'aime bien quand même. Enfin bon, c'est Laurent quoi.
Augustin Trappelin, merci beaucoup. Ton style est toujours doux, comme on peut l'entendre. Non, mais tes mots sont toujours forts, percutants, subversifs et en même temps très doux, c'est vrai. Et tu aimes bien les choses, tu aimes bien faire les choses de manière traditionnelle, mais toujours avec un petit truc en plus qui te caractérise, c'est ce petit détail en plus qui fait que c'est pas tout à fait classique justement.
Merci pour tous ces mots.
Mais écoute, moi j'apprécie en tout cas, et je crois qu'on est très nombreux à t'apprécier tous les matins. Je t'ai écrit un petit truc. Alors je l'ai écrit avec le vouvoiement. Alors je vous voyais quand même ou je le relis.
Ah non, je veux bien.
Hein, je te vouvoie pour finir l'émission.
Il n'y a rien de plus beau que le vouvoiement.
Augustin Trappenard, vous ne cherchez pas à casser les murs. Ce serait trop facile pour vous. Avec votre force tranquille, finalement, vous déplacez les montagnes petit à petit à l'aide du vent, en respectant le temps. Vous cherchez, vous innovez, le tout avec une tendresse qui vous rend passionnant à une époque où ce qui est à la mode, c'est le clash, le buzz. Vous, c'est l'inverse. Vous retournez un peu tout le monde, avec un charme qui parle à tout le monde et une bienveillance qui fait du bien à tout le monde et qui redevient finalement dans l'air du temps. Ce temps, ce rythme qui vous inspire, vous, le batteur. Alors pour finir cette émission avec vous, j'avais envie de convier une artiste sublime que tu as rencontrée en 2017. Cette artiste te disait ceci: si jamais je n'improvise pas vraiment, la musique ne m'intéresse pas. Ça te dit quelque chose ou pas?
Mélodie Gardot.
Non, mais elle aurait pu le dire en effet. Elle te disait aussi: parfois je commence une phrase et je la finis au piano. Tout à l'heure t'as dit que quand tu faisais tes émissions, après tu les oubliais direct après.
Attends, un autre indice, un troisième.
Allez, je te laisse encore. Je te donne un troisième indice. T'étais pas très loin en parlant de Mélodie Gardot.
J'étais pas.
On a commencé cette émission en parlant.
Bridgewater.
Non, mais t'es pas loin. T'es toujours dans un délire qui est pas loin.
Diana Krall,
exactement.
Waouh, émission dingue.
L'émission dingue. Ouais. Et je m'en souviens très très bien. Elle m'avait marqué cette émission.
Ben, j'avais envie de lui demander comment ça se passe avec Elvis Costello le matin quand ils font des impros tous les deux. J'ai pas osé, tu vois.
Ça doit retourner la maison, ça.
Ben, c'est ça, tu vois.
Ben voilà, elle disait qu'elle commençait ses phrases et puis elle finissait au piano. Ben nous, on a commencé cette émission en papotant, puis on va finir avec Diana Krall.
Wow.
Voilà, merci Augustin Trappenard.
C'est moi.
Merci Sam Strouk.
Merci Sam, c'était génial.
Super musicien, merci à Jean-Charles Doucan, la réalisation.
Et à Laurent Sapir pour les news.
À Laurent Sapir pour les news qui nous ont plombé un peu. Merci à Pierre Duvigneau pour la préparation de cette émission, à Maxime Van Der Beek, Eric Hochstein, Sébastien Vidal à la sonorisation. Merci à Adrien Belgout pour la vidéo. Merci à toute l'équipe de TSF qui m'accueille joyeusement chaque mois. Voilà, c'était Improbox numéro 6 avec vous, Augustin Trappenard et Samuel Strouk. Bonne soirée à tous les auditeurs. Merci d'avoir passé ce petit bout de soirée avec nous. Rendez-vous le 14 avril pour Improbox Radio numéro 7. Belle fin de soirée à tous et on va passer à l'autre chambre pour se dire au revoir.
Wow. Voilà.
Improvisation is just something natural you do.
Improbox.
Improbox.
Improvising is living.
Le B.A.B.A.D.I.B. Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.